Élevage intensif.
Bah, c'est du pognon, ça. C'est pour faire du pognon. C'est pas pour nourrir les gens.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir dans le temple du gai savoir. Zoom zoom zen, chaque après-midi, deux heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Aujourd'hui, un concept qu'on connaît tous sans vraiment le connaître, un secteur sur lequel on a tous un avis sans en connaître le fonctionnement, les dessous. Alors c'est précisément pour arrêter de parler dans le vide, de faire semblant de s'y connaître alors qu'on n'y entend rien, en un mot, pour ne pas faire notre pire courade, qu'on a décidé de zoomer aujourd'hui sur le secteur de l'élevage intensif. Des vaches quasi les unes sur les autres, des poulets en batterie qui n'ont jamais vu et ne verront jamais la lumière du jour, parfois des violences envers les animaux, tout ça pour qu'au bout de la chaîne alimentaire, un rédacteur en chef glouton, se contrefoutant de la notion de traçabilité, puisse se goinfrer en s'exclamant
« J'aime bien le quick and toast ».
Comment en est-on arrivé là? Comme ce n'est pas Manon qui, en bonne parisienne, n'a jamais vu un agneau à part sous sa forme finale qu'on appelle kebab et qui pense que les nuggets poussent sur des nuggetiers, qui va pouvoir nous éclairer, on a invité un journaliste qui a enquêté sur ce secteur de l'élevage intensif et qui représente encore aujourd'hui la large majorité de ce qui arrive dans nos assiettes. Alors, comment ça fonctionne? À qui profite le système de l'élevage intensif? Qui sont vraiment les dindons de la farce, nous ou bien les agriculteurs eux-mêmes? Quel risque pour notre santé? Un indice, Cyril Lacarrière, notre rédac chef amateur de quick and toast, tous depuis un mois, alors que notre réalisateur décroissant, Ghislain Fontana, qui dans son tiny verger biodynamique d'Ivry-sur-Seine fait pousser petits marrons, courges pâtissons et cannabis, pète la forme. Visiblement, la récolte a été bonne pour Ghislain. Zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Ulysse Thévenon.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Mais merci à vous d'être là. Vous êtes Ulysse journaliste, vous venez de remporter le prix Mange-Livre qui récompense un ouvrage mettant en avant l'alimentation issue de pratiques respectueuses de la nature. C'est votre dernière enquête qui a été récompensée, ça s'appelle Le sens du bétail, excellent jeu de mots qu'on peut d'emblée souligner. Hein. Il reçoit le label Zoom Zoom Zen des meilleurs jeux de mots. Exactement, Le sens du bétail, vous ne mangerez plus jamais de la même façon. C'est paru chez Flammarion. 2 ans d'investigation, 250 témoignages, vous nous plongez au cœur de l'industrie de l'élevage français et de ses dérives. Ulysse Thévenon, je ne crois pas trahir un secret. Vous êtes ami avec Victor Castanet, qu'on a reçu ici même la semaine dernière. J'ai lu que c'était son enquête sur les EHPAD qui vous avait donné envie, à la base, d'en savoir plus sur l'élevage intensif. Il y a des points communs entre les deux sujets.
Oui, c'est vrai qu'avec Victor, avant qu'il écrive un livre, on faisait beaucoup de reportages télévisés ensemble. Et les deux derniers reportages qu'on a fait portaient sur les EHPAD et sur la détresse agricole.
Ah bah
donc, on ne savait pas, à cette époque, on cultivait ce qui allait occuper nos prochaines années. Et en le voyant, poussant son enquête plus loin, c'est-à-dire au-delà du documentaire qui est très contraignant, mais dans un livre, ça m'a donné des idées. Et quand je me suis rendu compte de la matière qu'il y avait, non pas forcément vis-à-vis de l'élevage sur la souffrance animale, les problèmes environnementaux, les dangers sanitaires qui sont de vrais sujets, moi c'est la détresse humaine qui m'a particulièrement marqué. Et ces personnes, les éleveurs et les éleveuses, souvent pointées du doigt, je me suis rendu compte que c'était aussi les premières victimes d'un système, et que les deux victimes c'était eux et aussi nous les consommateurs. Et donc j'ai voulu creuser ce sujet.
Vous allez nous expliquer comment ça se passe en coulisses de l'élevage intensif. Il a été, lui, durant les années 90, le principal responsable de l'explosion de la consommation de viande bovine en France. Forcément, à la lumière des révélations sur les dérives de l'élevage intensif, il a eu à cœur de se rattraper en nous proposant aujourd'hui de traiter ce thème dans Zoom Zoom Zen. Au début, il voulait le faire avec son ami, le PDG de l'entreprise Bigard, mais j'ai réussi à le convaincre de prendre plutôt quelqu'un de neutre, un journaliste. Cyril.
Je ne peux pas vous laisser dire ça. Autant il y a des trucs sur lesquels on peut aller la caricature.
Là, on arrête tout.
Il est 16h11 sur France Inter, on arrête tout.
C'est un droit de réponse.
C'est inadmissible. En tant que client du bout de la boucherie de Denis Chenet dans le 10e arrondissement, vous ne pouvez pas dire.
C'est vrai que la traçabilité vous tient à cœur.
Absolument.
C'est vrai, mon Cyril. Je retire ce que j'ai dit. Surtout que vous avez limité votre consommation de viande rouge dernièrement.
Oui, absolument.
Pas plus de 5 fois par semaine.
Non, c'est très bien. Pas plus de 5 côtes de bœuf par semaine.
Un grand pas en avant. Alors, racontez-nous l'élevage intensif. D'où ça sort, Cyril?
Imaginez 25 000 poulets entassés dans un hangar, 300 vaches qui passent à la traite 3 fois par jour, des porcs qui ne verront jamais un champ et une ferme des 1000 vaches comme symbole d'un modèle. Un modèle qui a bouleversé notre rapport aux animaux et à l'alimentation. Bienvenue dans le monde de l'élevage intensif. C'est après la Seconde Guerre mondiale que tout commence. Il faut nourrir des populations affamées par la guerre. C'est l'heure de la révolution verte. Une période de progrès technologique, la mécanisation de la production, l'explosion des engrais et des pesticides. L'objectif est simple, produire beaucoup, produire vite et produire pas cher. Et ça marche. La production de viande explose. 47 millions de tonnes en 1950, c'est plus de 350 millions aujourd'hui. En France, dans les années 50, on en mange 30 kilos par an et par habitant. On atteint un pic à 95 kilos dans les années 90. Aujourd'hui, ça a un peu baissé, 84 kilos par habitant et par an. Actuellement, plus de 80% des animaux d'élevage européens sont issus des systèmes intensifs.
Un modèle qui a un coût, Cyril.
Oui, un coût pour la planète, un coût pour les animaux, un coût pour notre santé, par exemple. L'élevage représenterait 14,5% des gaz à effet de serre de la planète. C'est autant que tout le secteur des transports. Pourtant, dès les prémices de cette industrialisation, des voix se sont élevées pour mettre en garde sur ces risques. En 1964, la militante et défenseure des animaux anglaise Ruth Harrison publie Animal Machine, The New Factory Farming Industry, un livre dans lequel elle dénonce déjà l'élevage intensif. Mais il faudra pourtant attendre le début du 21e pour que ça devienne un débat public, grâce notamment à des reportages chocs qui montrent la violence avec laquelle ces animaux sont traités. En France, on les doit notamment à l'association L214. Alors d'où ça sort, cet élevage intensif? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Bien évidemment, mon cher Cyril. Ulysse Thévenon, Cyril parlait d'un coût pour la planète, pour les animaux et aussi pour notre santé, on va y venir. Mais malgré tout ça, déjà, comment se porte l'élevage intensif aujourd'hui en France?
Eh bien, ça devient la norme, hein. C'est le chemin qui est pris depuis les années 60. Par exemple, en porc, c'est plus de 95% des animaux qui sont élevés en système intensif. Et dans des filières spécifiques comme le lapin, par exemple, il y en a encore, on est proche de 100%. Ce qui est intéressant, je me suis rendu compte dans mon enquête que ça touche même les élevages paysans qui, maintenant, doivent se plier à des normes, notamment des normes sanitaires et de biosécurité qui sont
pensées... On ne peut respecter que si on est gros.
Oui, exactement. Et puis, qui vont totalement à l'encontre de l'élevage paysan. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas qu'il y ait différentes espèces d'animaux à proximité. Même moi, quand je vais sur place, je suis un petit peu hors la loi parce qu'il faudrait que je passe par un sas de biosécurité avec des matériaux dignes de labos pharmaceutiques. Et donc, je me suis rendu compte que ce qui est un élevage idéal pourrait devenir bientôt un élevage illégal. Mais j'ai évidemment aussi rencontré des éleveurs qui sont en système intensif et je me suis rendu compte qu'ils sont piégés dans ce système. Ils font des emprunts colossaux de plusieurs millions parfois. On sait qu'il y a beaucoup de suicides. J'ai été témoin d'une famille qui est devenue SDF durant mon enquête parce qu'elle a été lâchée par un industriel. Et donc, j'ai voulu remonter la filière pas à pas pour comprendre toutes les mécaniques qui sont mises en place par les industriels, mais également par les banques, les supermarchés, également les normes européennes surtransposées par la France et qui les piègent dans ce système.
C'est partout sur le territoire. On entend souvent en Bretagne, les ports bretons. Est-ce que c'est partout en France où il y a des régions spécialisées?
Alors, c'est partout en France, mais il y a des régions françaises, par exemple, où on est plus sur des bovins qui sont en plein air, disons. Et c'est vrai que à l'ouest, c'est plutôt là où je me suis concentré. C'est là où on trouve le plus d'élevage intensif. Évidemment, en Bretagne, on a énormément d'élevage intensif de porcs, par exemple, de volailles également. Mais je suis allé également dans le Maine-et-Loire, en Vendée, en Mayenne, dans les Deux-Sèvres.
Vous dites, et ça c'est intéressant pour résumer, qu'il n'y a pas de grands méchants à chercher. C'est que c'est tout un système opposé aux intérêts des agriculteurs, au fond.
Oui, c'est ça. En fait, tout le système agricole vit du travail des agriculteurs, et les agriculteurs qui créent la richesse, qui font vivre cette filière, qui font vivre des dizaines de personnes, des dizaines d'entreprises, sont paradoxalement les plus méprisés. Ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Certains me disent, moi je ne me plains pas, je touche 1200 euros par mois, alors que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Et j'en ai rencontré un certain nombre qui sont à 0 euros, tout simplement.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
À suivre dans Zoom Zoom, encore une bonne nouvelle aux États-Unis, la ICE embauche à tour de bras pour surveiller maintenant les réseaux sociaux et débusquer les immigrés illégaux en ligne. Mais pendant que Cyril applaudit cette nouvelle, je me tourne vers vous, Marie Debreuer. Vous nous parlez d'une grande enquête sur les enseignants aujourd'hui.
Et on va parler de la France, cocorico ! Enfin, de l'échec de la France dans le traitement des enseignants, donc cocorico, une fierté patriote, mais un peu tristoune, quoi, cocorico, un petit coq qui déprime, cocorico, la crête du coq, elle a un peu baissé comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce que ça pleure une poule, hein? Eh bien, j'ai vérifié sur le site Poulorama, tout sur les poules. Eh bien, figurez-vous que non. Voilà, les poules ne pleurent pas parce qu'elles ne sécrètent pas de larmes, quoi. Et alors, comment savoir, du coup, si une poule est triste? Eh bien, elle arrête de pondre. Eh ouais. Et pour en revenir à notre sujet, comment savoir si les enseignants sont tristes? Eh bien, ils arrêtent de pondre. Oui, alors voilà, c'est la petite partie là où je fais des blagues aberrantes. Hein, je fais ça au tout début de chronique à chaque fois. Check, je vous fais la même recette tous les jours et j'ai perdu ma ligne. C'est pour ça que.
C'est pour ça qu'il y a un meuble un peu, oui.
Après, là, pour être tout à fait honnête, je vous parle, ça a l'air un peu fluide, tout ça et tout. Mais dans ma tête, il y a monsieur Biancardi, mon prof de français de première, qui est en train de couver un œuf. Voilà, je l'imagine là sur un gros tas de paille avec ses vestes, avec des coudières en cuir et tout. Trop marrant, il va pondre quoi? Un petit poussin? Ils veulent l'appeler comment? Eugène Ionescott Cotte Cotte. La pensée en arborescence. La France est le pays où les enseignants se sentent le moins valorisés. Oh, les pauvres. On devrait peut-être trouver un système, voilà, pour qu'ils se sentent plus valorisés. Par exemple, avec des gommettes. Voilà. Trois gommettes jaunes donnent une gommette rose. Trois gommettes roses donnent une gommette en forme de cœur. Et alors, si t'as une gommette en forme de cœur, ça veut dire que t'es un super prof. Voilà. Bon, on se marre. Pas tant que ça. Seulement 4% des enseignants se sentent valorisés par la société, c'est peu. Il faut de la gommette. Après, il faut savoir que le service statistique du ministère de l'Éducation nationale qui a donné ces chiffres s'appelle l'ADEP. Donc, bon, c'est, après, c'est psychophobe comme nom. Voilà, l'ADEP. Non, je déconne. C'est homophobe comme nom. Voilà. Non, je déconne. C'est misogyne de mentionner Johnny Depp après tout ce qui s'est passé avec son ex-conjointe. Et non, je déconne encore. L'ADEP, c'est pour direction des évaluations de la prospective et de la performance, comme chacun sait. Je compatis hein, avec les profs, bien sûr. Humoristes et profs, c'est pareil. Hein, en vrai, bah, on parle pendant une heure devant des gens qui gigotent sur leur siège. C'est pareil. Sauf que les humoristes, bon, on ne dit pas « Manon, tu veux partager avec toute la glace qui te fait marrer ?» Avec toute la glace, eh ben super. Avec toute la glace qui te fait marrer. Puisque, a priori, ce qui l'a fait marrer, c'est la blague. Quoi. Mon public, il rigole pas parce qu'il pense voir une demi-molle dans un jean d'un gars qui parle de Eugène Ionesco. Je me foire sur toutes mes blagues.
C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui.
Non, mais là, je vais me faire virer. Là. C'était la dernière. Alors, je continue. Si,
on est tout
alors, assis, parce qu'il y a marqué assis. C'est le moment de l'étonnement. Il y a une grosse différence entre les humoristes et les profs.
Ah bon
nous, sur scène, on n'a pas de tableau avec des craies ou des feutres Velleda. Voilà. Enfin, il y a peut-être...
Il méritait bien le assis, tu sais.
Ah là là, allez, on continue. Et alors, dans l'étude très sérieuse qui est le sujet de ma chronique, on apprend qu'en France, seulement 25% des enseignants ont une formation en gestion de classe contre 50% en moyenne dans les autres pays. Ceci explique cela. Alors, j'ai un conseil hein, pour les profs, vu qu'humoriste et prof, c'est le même métier. Hein, quand vous avez un élément perturbateur dans votre classe, faites comme moi et vous lui dites, bah alors, tu t'es cru chez ta mère. Et je peux vous dire que ça ferme bien son claque-merde. Après, c'est vrai que moi, je suis rarement en lien avec les fameuses mères hein, de mon public. En fait, je crois qu'humoriste et prof, c'est pas pareil. Vous vous rappelez du prof de français là, qui était en train de couver un œuf dans ma tête?
Oui,
vous,
Bacardi.
Vous vous en rappelez, monsieur oui. Bacardi. Eh ben, il a été rejoint par mon prof d'art plastique de 3e, monsieur Gatineau, qui lui est en train de picorer des petites graines. Et alors, ce qui est marrant, c'est que monsieur Biancardi, c'était mon prof au lycée, et monsieur Gatineau au collège. Donc, c'est impossible qu'ils se connaissent, puisque c'était pas le même établissement. Ça n'a aucun sens qu'ils se retrouvent dans le même poulailler. J'ai fini. Hein. Continuez votre émission, bon sang.
Merci, Marie Debreur, à suivre la journée. Journaliste Léa Lejeune vient nous décrypter le phénomène du féminisme washing. Quentin ira d'ailleurs vous demander ce que vous en pensez. Et on parlera justice avec l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Le temps d'écouter Gaëtan Roussel, ta part sur Inter.
Ta part de savoir, d'oublier, de revoir. Ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. Ta part de crier. De contredire, oui de t'enfuir, ta part de vivre le meilleur comme le pire, ta part de vouloir, de recevoir, de réussir, ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire, ta part entière, ta liberté, tendre et chère. Ta part d'ombre, de lumière, d'idées sombres. Ta part de virage,
soit-il quelque chose de spécial, ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal.
Moment de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Bonjour Léa Lejeune.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Léa, vous êtes journaliste économique, vous avez notamment écrit pour Libération et Challenge, et vous avez sorti Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes, aux éditions du Seuil. C'est le féminisme récupéré par le néolibéralisme ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment... Alors, néolibéralisme, c'est pour la partie consommation, donc c'est-à-dire, on va chercher à vendre du produit, on va chercher à augmenter le chiffre d'affaires. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont les entreprises essayent aussi de recruter, de se faire passer pour exemplaire, de communiquer, et puis d'avoir l'air bien vu auprès des pouvoirs publics, etc. Donc c'est vraiment toute cette dynamique-là. Alors il y a quand même un truc qu'il faut noter sur le féminisme washing, c'est que mon livre il date déjà de 2021. Et il y a une différence qui est en train de se produire. Ouais. Quand j'écrivais le livre, il y avait vraiment ce truc-là où toutes les entreprises, vous allez me voir venir de la tech américaine, s'assumaient féministes et se disaient nous on est diversité, inclusion, neuroatypisme, personnes racisées, etc. Et on a bien vu à quel point c'était du féminisme washing. Déjà à l'époque, je montrais par exemple le cas d'Amazon, qui faisait des grandes campagnes féministes pour le 8 mars, mais qui a en fait des inégalités salariales très supérieures aux autres entreprises du même genre, plus de 20% à poste équivalent aux États-Unis. Et là, on voit qu'avec Trump, en fait, finalement, tout ça a été abandonné. Ces entreprises ont lâché leur DEI, donc leurs accords diversité et inclusion. Et autant pour les femmes, les personnes LGBTQIA+, que la diversité d'origine ethnique, eh bien, tous ces publics-là, finalement, ne les intéressent plus vraiment. Et c'est là qu'on voit que c'était un faire-valoir.
On a vu récemment deux informations, vous allez nous dire ce que vous en pensez, et si c'est du féminisme washing. Le silence assourdissant des marques qui travaillaient avec Jean Humbert et qui n'ont pas communiqué après les accusations dont est l'objet le chef. De même, la défense maladroite des auteurs d'une BD sur Gisèle Pellico quand ils ont appris que le dessinateur était accusé de violences sexistes et sexuelles. Ils se sont retranchés derrière le fait de ne pas être des juges, c'est leur justification. Est-ce que ces deux affaires entrent dans ce qu'on appelle le féminisme washing ?
Oui, on peut dire d'une certaine manière, oui. Alors, l'affaire Jean Humbert, donc accusé de violences conjugales, psychologiques et physiques par 3 ou 4 de ses compagnes, selon le cadre que l'on prend. Oui, ce qui est problématique, c'est qu'on a des entreprises comme Disney qui vont se revendiquer féministes, comme Dior qui vont se revendiquer féministes, comme le Festival de Cannes qu'on citait tout à l'heure, qui fait des grandes démonstrations féministes et qui essaye de se remettre en question après toutes les affaires de réalisateurs qui étaient mises en cause. Et là, en fait, on voit très bien que ces entreprises-là, elles se disent disent ok, on ne sait pas trop ce qui se passe, la procédure juridique n'a pas lieu, finalement on ne va pas parler, on va juste répondre vite fait, avec, en fait on n'a rien compris au communiqué de presse, hein, parce qu'il n'y a pas d'information dedans, mais on va juste parler vite fait pour dire qu'on a répondu, et on va attendre que ça se tasse, que ça passe sous le tapis. Ça me gêne un peu, et là où ça me gêne encore plus, c'est sur le cas de la BD féministe, donc c'est Notre Affaire, c'est une BD sur l'affaire Mazan, qui est écrite par... en fait, c'est 12 personnes, c'est un collectif d'auteurs, dessinateurs, etc. L'auteur principal n'est pas mis en cause, Mathieu Palin, mais les autres, dans les autres auteurs, il y a ce BDaste. Et là, par contre, moi, je suis pour le coup extrêmement gênée, c'est-à-dire que les éditions Iconoclaste, c'est une maison d'édition qui est connue pour ses engagements féministes, pour avoir publié par exemple l'autrice Titu Lecoq, pour être vraiment là-dedans. L'effet de violence conjugale était connu, était déjà sorti par une plainte. Donc ça veut dire qu'on s'est associé, on a mis plein de gens autour de la table sans avoir vérifié qui était coupable de quoi auparavant. Et au moment où on leur demande, on dit oui, mais c'est une affaire juridique. Oui, bien sûr, c'est une affaire juridique et on protège la présomption d'innocence et tout. Mais il y avait d'autres manières de réagir. Il y avait une manière de montrer déjà qu'on avait compris l'enjeu des violences sexistes et sexuelles dans un bouquin comme ça. L'enjeu, c'est que entre les personnes qui portent des accusations de viol ou de violence conjugale et les personnes qui sont réellement condamnées à la fin, on est plutôt sur 1%. Donc on sait bien que tout n'est pas réglé par la justice. Et par exemple, on aurait pu imaginer d'autres manières, c'est-à-dire décider de rééditer la BD pour les rééditions futures, sans cet auteur-là et en prenant une dessinatrice différente. Voilà, il y a des manières de faire pour montrer qu'on a compris les enjeux sur lesquels finalement on se rémunère.
Et vous, ça vous inspire quoi, le féminisme washing? Cyril vient de recevoir un SMS de Pascal Praud qui lui dit « Rien, encore une heure de perdu avec nos impôts ». Mais Quentin, dans la rue, il y a peut-être d'autres sons de cloche.
Allez, sortons prendre l'air et voyons comment notre sujet du jour prend avec les passants. Fin de matinée, je sors le micro France Inter. Je rencontre cette femme qui sort d'une librairie. Elle découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Ah, le féminisme washing.
De quoi on parle?
À mon avis de féminisme, c'est pas vraiment mon délire. Allez-y.
De quoi, le féminisme?
Ouais, tous ces trucs... Parce que je pense que parfois, il ne faut pas non plus trop parler d'un certain sujet. Et je trouve qu'effectivement, les années 80, c'était bien.
Alors ?
Ah bah dis donc !
Hein ?
Super.
C'est de la mauvaise pioche, ça. Moins Colombine qu'Arlequin, finalement. Heureusement, plus loin, je tombe sur Alicia, 20 ans, qui attend devant un cinéma.
Le féminisme washing, ouais. De manière générale, c'est tous les gens qui ne parlent pas de féminisme. De manière générale, les grandes entreprises... qui d'un seul coup vont demander à une youtubeuse ou une influenceuse dire « Ah viens, donne ton avis !» ou qui font semblant d'en avoir quoi que ce soit à faire, des fights un peu féministes le jour des droits pour la femme et le lendemain on n'en entend plus parler. Même chose que pendant la Pride, quand d'un seul coup tout le monde adore les arcs-en-ciel.
Ouais.
Du moins dans ma tête, c'est la même chose.
Le fameux rainbow washing, et Alicia, malgré ses 20 ans, elle n'est pas dupe du jeu de certaines entreprises.
Parce que c'est très facile de dire non, mais on va mettre la parité, on a une femme qui est PDG dans notre entreprise, donc on est carrément féministe. Et lire une femme, c'est pas être féministe. De la même manière qu'être une femme, c'est pas être féministe, c'est deux choses différentes. Faut que dans tes actions, on se rende compte que ce soit le cas dans les politiques, que ce soit le cas dans la manière dont tu dépenses ton argent, que ce soit quelque chose d'un petit peu cohérent.
On a entendu un Michel des années 80 tout à l'heure, mais attention, un Michel peut en cacher un autre.
Féminisme, washing, de tout ce qui tourne autour du féminisme et attire l'arigot.
Attire l'arigot, bien sûr. Je commence à raconter à Michel ces entreprises, ces boîtes qui font du féminisme par l'image et le marketing, alors que derrière, elles ne respectent pas la parité, par exemple, les engagements ou l'égalité salariale.
Alors l'égalité, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a jamais d'égalité. Après, dans une société...
On parle d'égalité salariale, Michel.
Ouais, mais égalité salariale, il y a toujours un truc. Dans l'ère actuelle, vous avez des gens qui se présentent avec... des anneaux dans le nez, des machins, vous pouvez pas espérer. Moi j'ai en consultation des mômes que je connais depuis longtemps qui viennent maintenant et qui me disent wesh wesh voilà, après s'ils vont comme ça chercher un emploi, ils l'auront pas.
Pour Michel, cette génération veut progresser dans le monde de l'entreprise sans en avoir les codes. C'est à ce moment-là que deux auditeurs, fans de Zoom Zoom Zen, me reconnaissent.
Ouais, mais on est ravis de vous voir, on met un visage. Vous n'êtes pas si petit que ça. C'est vraiment des monstres, les autres.
Continuez, allez-y, parce que pour mon dossier des RH...
Ce sont des monstres.
Oui, des monstres.
Des monstres bienveillants. C'est
curieux, curieux du mot du jour. Voilà ce que le féminisme washing leur inspire.
Parce que, en fait, maintenant, toutes les pubs sont teintées de féminisme, on voit plus jamais une femme qui fait la lessive ou qui fait la vaisselle. Hein. Alors que bon, dans la vraie vie, on sait que c'est pas comme ça.
Quentin, vous faites votre lessive vous-même?
Ah, moi je suis un dingue de la lessive. Ah, vous pouvez demander à, vous pouvez demander à ma meuf, c'est, je suis un peu, même presque un peu toqué. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit moi qui étende le linge, parce que s'il est mal étendu, je vais mal dormir.
D'accord.
Avant de partir, et comme ce sont des fans de toute l'équipe, ils ont un petit message à faire passer.
Pierre Courade, il a pas l'air sympa. Hein.
Non, je veux dire avec Pierre Courade que nous, on était allé en vacances au Cap-Vert et c'était très très bien.
Ah oui,
ça, et donc, il n'a pas choisi la bonne île, le bon, le bon hôtel, je sais pas quoi.
Son expérience ne vaut pas
on
la pas peine.
Son expérience ne vaut pas la peine.
Ma dernière... Il n'a pas l'air sympa.
Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme en tailleur noir, cheveux tirés en arrière.
Ok.
On essaye?
Allez. Alors attendez, j'ai... Il y a France Inter qui m'arrête. J'arrive.
C'est qui au téléphone?
C'est mes sœurs.
Ah.
Alors, féminisme washing.
Elle voit très bien de quoi on parle. Elle bosse dans une grosse boîte qui joue un peu à ce jeu-là. Est-ce que ça l'énerve?
Oui, est-ce que ça m'énerve? Oui. Alors, moi, dans ma boîte, ce que j'ai observé, c'est que j'ai une collègue qui a eu, malheureusement, un petit problème de règles qui sont arrivés dans la journée. Elle en a parlé, du coup, à un N+1 qui était présent, qui s'occupe de nous. Et cette personne-là l'a regardée en disant « bah, organise-toi ». Parce qu'elle n'avait rien sur elle, du coup, et voilà, ça s'est arrêté là. Et du coup, elle a dû se débrouiller, aller chercher du coup ce dont elle avait besoin, mais derrière, ça lui a créé quand même des soucis, parce qu'on l'a considéré ça comme une absence.
Alors, qu'en façade, l'entreprise met en avant les femmes...
beaucoup de femmes, etc., des hauts postes, mais bon...
Ouais, entre slogans en vitrine et réflexions en réunion, il reste ce paradoxe, célébré en images, ignoré en pratique. C'est ça aujourd'hui en entreprise, être une femme.
Bonjour Marc Trévidic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marc, vous êtes magistrat, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste de Paris. Vous sortez un livre très important, contenu de l'actualité, Justice présumée coupable, c'est aux éditions Albin Michel. Vous nous expliquez comment fonctionne le système judiciaire et vous répondez aux interrogations qu'on peut légitimement se poser sur des notions qu'on pensait connaître, mais qui restent souvent floues, comme la fameuse présomption d'innocence. Alors déjà, Marc Trévidic, est-ce que vous partagez l'avis de Youssef Bad? Les attaques contre les magistrats, c'est tout sauf nouveau, hélas.
Ah, c'est tout sauf nouveau. D'ailleurs, le titre de ce livre, qui n'est pas pour l'occasion, c'était prévu avant, le montre suffisamment. Bon, je dirais depuis les années 90, depuis que la justice a essayé de sortir des affaires financières, politico-financières, en tout cas d'avoir une justice un peu égale pour tous. Modestement, faut être lucide. Mais il y a des cycles comme ça. Et là, j'ai l'impression quand même que tous les politiques, malgré les discours qui vont dans un sens ou dans un autre, ont un peu peur de la justice. Et j'ai un peu peur, moi, d'un retour de bâton après les élections qui s'approchent.
Il y a une question simple. Comment redonner confiance, tout simplement, aux gens en la justice?
On n'échappera pas, à mon avis, à un moment ou à un autre, à se poser la question de nos institutions, notamment de la place de la justice, ce problème de pouvoir judiciaire ou pas, de juridiction administrative, de président de la République. Puisqu'on a une crise qui est majeure, mais qui n'est pas que nous, hein. On nous aime pas, d'accord, dont acte, mais on n'aime pas plus les politiques. Donc, il n'y a aucun représentant du pouvoir qui est apprécié des Français aujourd'hui. Il va falloir se poser la question, mais y compris pour nous, trouver des solutions aussi pour que les citoyens aillent moins devant la justice, parce que c'est un vrai souci. On ne peut pas tout judiciariser. Les Français n'aiment pas leur justice, mais font appel à elle beaucoup plus qu'avant, tout le temps.
Un peu l'américaine, finalement.
Oui, c'est assez contradictoire. J'avais vu ça à Lille quand j'étais aux affaires familiales. C'est des mêmes justiciables qui venaient 5-6 fois pour changer le montant de la pension de 30 euros ou l'horaire où on récupère les mômes à 18h30 ou 19h. Enfin, ouais. Il y a aussi quelque chose qui est assez paradoxal chez les Français.
Mais est-ce qu'elle fait encore rêver?
Elle fait moins rêver, elle fait plutôt peur, tellement elle fonctionne mal et tellement elle est attaquée. Du coup, peut-être ce qui fait un peu plus rêver, c'est avocat que magistrat aujourd'hui. Mais il y a quand même pas mal de candidats encore. Hein. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, elle me fait plus rêver, personnellement.
vous en êtes revenu.
Si je rêvais encore de ma justice à 60 ans...
vous, quel a été le déclic pour vous d'être juge d'instruction, par exemple?
Ah, juge d'instruction, c'est très clair. Moi, c'est espèce de vue un peu romantique du chevalier blanc. Ouais, ouais. C'est horrible. Bah non, 2 euros, je sais pas. C'est simplement, c'est des gens, effectivement, comme le juge Michel, assassiné, des figures comme ça, ce côté lonesome cowboy qui va lutter contre les méchants, c'était ça.
Vous racontez justement dans votre livre le début de votre carrière. Vous n'aviez que 25 25 ans quand vous avez eu votre première affectation, vous dites « Je venais d'apprendre comment fonctionnait le service public de la justice, je ne serai jamais détrompé par la suite, aucune règle ne s'appliquait, ses serviteurs étaient corvéables à merci et je n'étais qu'une bête de somme dans le département du même nom. La justice a toujours, très beau jeu de mots, a toujours manqué de moyens humains et matériels ?»
Oui, ben quand je me suis retrouvé juge d'instruction à Péronne, que Rachida Dati a fait fermer, ce tribunal après, c'est la seule fois où elle était en fonction en 99, c'était à Péronne pendant un an et demi, deux ans, puis après, elle a fait de la politique. Elle a eu un mauvais souvenir, donc... Mais passons. Mais c'était un tribunal très sympa, j'étais seul juge d'instruction, et donc j'étais de permanence tout le temps, parce que dans les petits tribunaux, eh ben, faut pas polluer les dossiers. Si quelqu'un vous remplace, il pourra plus juger au fond. Et comme on était très peu, et qu'il faut trois au bout, donc j'ai appris que je serais de permanence tout le temps. Et il n'y avait même pas de téléphone portable à l'époque en 91, donc c'était le bip. J'étais bipé, cherchais une cabine téléphonique. C'était pas évident du tout. Voilà à peu près la vie d'un jeune de 25 ans.
Aux États-Unis aussi, le système judiciaire est attaqué de toutes parts. Est-ce qu'il vous semble plus ou moins solide que le nôtre, le système américain ?
Alors c'est ce que je pensais jusqu'à il y a peu de temps, parce que c'est un vrai pouvoir judiciaire, et puis il y a quand même ce pouvoir fédéral qui est quand même avec le FBI, tout ce qui des outils, une agence qui est censée être autonome, et puis on se rend compte que pas du tout, parce que il y a cette politisation aussi, hein, dans tous les États déjà. Je ne parle pas du système fédéral, il y a beaucoup de procureurs élus, donc ils sont démocrates ou républicains. Ils peuvent faire des poursuites qui intéressent leur parti plutôt que tel autre. Puisqu'on parle de politisation en France, ben, je vais vous dire qu'un procureur élu sous l'étiquette républicain ou démocrate, c'est un peu plus grave. Donc on voit cette fragilité. Je ne pensais pas que ça pouvait être à ce point-là. Alors cependant, les juges sont inamovibles, une fois qu'ils sont en poste, y compris les juges fédéraux. C'est quand même un système qui a fait ses preuves jusqu'au deuxième mandat de Trump. Premier mandat, il y avait la justice fédérale qui annulait des décisions de Trump, et c'était appliqué. C'est-à-dire, plutôt, Trump ne pouvait pas appliquer ses décisions. Mais à partir du moment où Trump dit « je m'en fous », on voit la limite d'un système judiciaire. S'il dit « la décision de justice, je m'en fous », ben, je vais quand même appliquer mes décisions, même si elles ont été déclarées illégales. Et ben, c'est vraiment le fondement de la démocratie. Là, on parle tous de l'état de droit, tous les sens. Ben là, pour le coup, c'est des coups d'état permanents, j'allais dire, qui sont en train de se mettre en place. Donc, ils ne jouent pas le jeu de la démocratie, et du coup, elle est en danger.
Merci Marc Trévidic. Dans un instant, un Zoom Zoom Test spécial privilège et la pièce jointe de Manon Mariani. Le temps d'une petite pause musicale, voici Alani, Something You Said.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be you? And I have started.
Should it we be the thing?
Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
1815, Waterloo. Le fantassin Childéric Lacarrière recevait la médaille militaire des mains même de Napoléon pour acte de bravoure. Après avoir chargé les lignes ennemies, ivre mort, perdant peut-être un sac de vie, comme il appelait son testicule droit, mais y gagnant le respect éternel de l'empereur et surtout le privilège d'avoir une tente individuelle au campement. Aujourd'hui, dans le quiz, nous allons zoomer sur les privilèges les plus fous et les plus insoupçonnés. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz qui, je préviens, risque de susciter pas mal de jalousie, comme la fois où Manon avait découvert que L'Oréal m'envoyait des produits gratuits alors qu'elle attend toujours son calendrier de l'Avent Passage du Désir depuis 2022.
C'est fou, hein.
Le premier de nos privilèges d'ultra-privilégiés est un sésame assez incroyable. Il y a fort à parier que Quentin serait prêt à vendre sa propre mère pour en bénéficier. En même temps, il vendrait sa mère juste pour intégrer l'équipe de Nagui. Alors forcément, bref. Ce sésame, les amis...
Plus maintenant, c'est passé.
C'est fini.
Ouais,
seules quelques personnes au monde le détiennent. Warren Buffett, par exemple, ou encore Bill Gates. Ce sésame, c'est... la Mac Gold Card, qui permet de se péter le bide gratuitement au McDonald's à vie. La Starbucks Lifetime Card, qui permet de se boire des Pumpkin Spice Latte gratuitement à vie. Ou le Blériot Platinum Experience, qui permet de bouffer au Blériot gratuitement
B,
à vie.
B, A, non, Starbucks. B, non, c'est le truc de Starbucks.
Vous connaissez, vous aimez bien cette chaîne de café?
Yeah. Yeah.
Ouais. Non, pas forcément.
Ils écrivent forcément.
En fait, ils mettent Marion
rien.
Sur le truc à chaque fois.
Oui,
c'est
oui. Non, la Marianoche, ils écrivent maintenant.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui. Oui, Quentin.
Mais non.
Warren et Bill, des gars capables de se payer des risottos à 100$, doivent être vraiment contents de pouvoir manger gratuitement au McDo. Oh. Mais c'est le principe de cette carte délivrée à quelques Happy Few et seulement 12 personnes tirées au sort lors d'une opération commerciale à Noël 2022.
C'est bien, ça.
On comprend enfin pourquoi Quentin avait cet aspect, on va dire, sphérique sur la photo de notre dîner de Noël cette année-là. Il faisait partie des heureux élus. A noter que McDo n'est pas le seul fast-food à avoir inventé ce type de gratuité à vie pour des stars qui n'ont aucun problème à se payer des fast-food. Quand Cyril a par exemple découvert que le chanteur Ed Sheeran, grand amateur de poulet frit, était détenteur d'une black card chez Nando's, chaîne de référence en la matière, son sang n'a fait qu'un tour.
J'ai fait à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas.
Cyril, qui n'est néanmoins pas à plaindre. Cyril qui n'est pas à plaindre. C'est puisque son... je rappelle que pour ses 50 ans, il s'est quand même offert Johnny Rock. Le sosie vocal de Johnny Hallyday.
Oh. Et c'est un vrai enregistrement.
C'est un vrai, ouais. C'était au mariage. Et s'il a pu le booker, c'est grâce à la plus sélecte de toutes les cartes bancaires. Celle dont le service conciergerie peut vous dégoter un éléphant de compagnie ou vous organiser un lâcher de papillon blanc au débeauté. Et même, vous avez un super prix, en l'occurrence 10 000 euros, sur un groupe de musiciens qui reprennent les tubes par-dessus une bande son karaoké. Cette carte, vous l'aurez reconnue, si vous avez déjà dîné avec Nagui une fois dans votre vie, c'est bien évidemment la très coûteuse Visa Infinite. Amex Centurion ou Mastercard World Elite.
B
ouais.
Bah B.
Ah non, je vais mettre C moi.
La Mastercard World Elite, vous l'avez déjà vue quand vous avez déjeuné avec Nagui.
Oui. Ouais, il y en a 5.
Elle est très très belle.
Vous en avez une bien noire aussi.
Elle est très très belle, mais c'est malheureusement Manon qui a la bonne réponse puisqu'il s'agit de l'Amex Centurion. Imaginez un peu Quentin si vous étiez le repossesseur de cet Amex Centurion petit rectangle en titane. Vous auriez accès à une conciergerie de luxe. Vous pourriez rencontrer des personnalités encore plus prestigieuses que Pascal Obispo au club Centurion. Alors c'est vrai que le premier critère, c'est de posséder un compte bancaire et de bien faire chauffer son Amex. Pas évident pour le seul employé de Radio France à se faire payer par enveloppe hebdomadaire retirée à la compta. Le deuxième petit critère, c'est quoi pour avoir cet Amex Centurion? Une cotisation à 4000 euros annuels plus 5000 euros de frais de dossier la première année, parce que sinon c'est pas assez cher.
C'est cher.
20 000 euros de dépenses mensuelles ou prendre l'avion au moins une fois par semaine.
Les trois.
A et B.
Ah non, A et B, ouais, tu dois avoir raison.
Oui. Erreur de Manon, bonne réponse de Quentin. Effectivement, 20 000 euros de dépenses mensuelles. Dans mon entourage, je ne connais qu'une personne qui est éligible, Yann Marguet. Enfin, enfin, pour l'ultime question de ce quiz, conformément au terme de l'article 17.4 de la charte du Zoom Zoom Test, nous partons aux États-Unis en 1981. Cyril Lacarrière, qui a demandé et obtenu l'asile politique à l'Amérique de Ronald Reagan, après l'arrivée de l'archange du mal à l'Élysée, Mitterrand le Rouge, comme il l'appelle, se trouve dans un vol American Airlines pour Washington DC. L'alcool offert l'ayant mis de bonne humeur, il se met à discuter avec son voisin, un certain Steve Rushstein, sans savoir que Steve Rushstein est le seul détenteur de la carte voleur exclusive, crément à volonté toute la vie. Ce bon vieux Steve va ruiner la compagnie aérienne en abusant de son pass vol illimité, dont il est un des rares possesseurs au monde. Où Steve assistera à l'atterrissage depuis le cockpit grâce à sa carte American Airlines Excelsior.
B
et C.
B
et C.
Ah ben... J'ai un doute maintenant, parce que c'est vrai que s'il a cette carte-là, bah oui, c'est aussi... Je dirais bonne réponse de Quentin.
Non, mais...
Mais oui, car il peut tout se permettre.
C'est pas surligné.
Ça mérite quelques explications.
Ah,
parce qu'elle regarde,
mais elle regarde.
Elle vient d'ajouter. Elle vient d'ajouter qu'elle trichait au Zoom Zoom
tous
Test.
Tous les jours.
Oh mon Dieu, vous démarrez avec moins 5 points demain. C'est honteux. Vous êtes la honte du service public.
Je me suis penchée pour regarder.
Écoutez bien ça, Jean-Marc Jancovici, c'est pour toi. En 81, American Airlines avait un gros besoin de liquidité. Il lance le programme American Airlines Air Pass, qui offre à ses détenteurs des vols illimités en première classe et un accès illimité au lounge à vie. Le Steve, qui était un citoyen du monde bien carboné, va utiliser le pass plus de 10 000 fois, traversant l'Atlantique pour un déjeuner ou bien acheter un foulard à New York. En 2007, American Airlines est obligé de lui supprimer son pass, qui coûtait environ 1 million de dollars à la compagnie par an. Visiblement, Jancovici la connaissait pas, celle-là. Défaite de l'écologie et victoire de Quentin, lui.
Quand même.
Comme demain, d'ailleurs, puisqu'on est mort avec 5 points de pénalité, vous ne le rattraperez jamais.
Il y aura peut-être une question à 5 points. Qui sait ?
C'est possible. Tout est possible non, dans le Zoom Zoom Test. Une société de privilèges, c'est pas comme ça qu'on décrirait la France a priori. Et pourtant, il en reste pas mal à abolir des privilèges, comme le dit le livre de notre invitée, la philosophe Alice de Rochechouart. Alice, dans votre livre, vous estimez que le contrat social n'existe pas et qu'il est désormais transformé en tresse de privilèges. C'est quoi une tresse de privilèges ?
Alors, le contrat social, je reviens très brièvement là-dessus, c'est le principe philosophique qui organise notre modernité politique. C'est l'idée que les individus vont passer un contrat fictif, hein, les uns avec les autres, ils vont renoncer à leur liberté individuelle pour acquérir une liberté civile au sein de l'État. Voilà, pour le dire très brièvement. Donc, ce contrat social présuppose que les individus sont tous égaux et égaux. Or, ce que je montre dans le livre, c'est qu'on est plutôt dans l'idée d'un contrat de domination, d'un ensemble de contrats de domination qui forment une tresse des privilèges. C'est-à-dire, on pourrait dire que le tissu social est formé de plusieurs fils qui sont chacun des hiérarchies et on est dans un entrecroisement de domination.
C'est là que j'interviens avec ma question contradictoire, ma chère Alice. Vous dites que toute la société est dominée par des positions de domination. Domination des riches, domination des hommes, domination des personnes blanches, domination des personnes valides. Si c'était vraiment le fondement de notre société, on ne chercherait pas à corriger ces dominations. Moi, j'ai l'impression que la redistribution permet quand même de corriger les inégalités. On progresse dans différents domaines. Les grandes écoles s'ouvrent à d'autres populations. Est-ce que on ne va pas trop vite quand on dit qu'on vit dans une société de privilégiés pour les privilégiés ?
Oui, alors, y a une tension en fait, qui est présente depuis la Révolution entre d'un côté une volonté, un désir égalitariste très fort en France, hein, quand même. Il ne faut pas non plus nier cet élan philosophique et idéologique à la Révolution. Et quand même un élitisme très fort aussi, un élitisme aristocratique et bourgeois qui est présent. Et la société est finalement en tension entre ces deux tentations, si j'ose dire. Et donc, il n'est pas tout à fait étonnant, puisqu'on va tout le temps brandir l'idéal de justice sociale, liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas complètement dire, bah non, en fait, c'était une arnaque, restez à votre place. Donc, il y a toujours une manière... pas toujours, enfin, qui est parfois sincère et qui est parfois bien stratégique pour apaiser un peu la situation, de gommer certaines inégalités pour en camoufler d'autres ou pour que le statu quo perdure. Si vous redistribuez un petit peu, vous apaisez les contestations et les colères sociales. Et par contre, celles et ceux, on va dire, qui dirigent, qui sont en haut, ont une place qui reste bien au chaud.
Vous faites aussi dans le livre le distinguo entre privilèges et avantages.
Ouais, absolument. Alors, si je fais la différence, c'est parce que on entend très souvent dans le débat public parler des privilèges, par exemple des cheminots, des cheminots, des fonctionnaires, des profs, c'est quelque chose dont on entend très souvent parler. Et donc j'ai voulu montrer que il ne s'agit pas de privilèges, mais qu'il s'agit d'avantages, ou plutôt même de compensation de désavantages. Dans le cadre des cheminots, c'est très clair, c'est une corporation où il y a de la pénibilité, travail le week-end, et donc ils ont conquis par la lutte et la contestation sociale un certain nombre de désavantages ou des compensations de désavantages. Il ne s'agit pas de privilèges dans la mesure où ça ne participe pas à une structure plus générale de domination. En fait, quand on identifie ou quand on croit identifier un privilège, il faut toujours se demander, est-ce que cet avantage spécifique participe à une structure de domination ? Dans le cadre des cheminots, on voit bien que c'est pas les cheminots qui gouvernent la France. Donc, en fait, la réponse est évidente. Et d'ailleurs, les dernières mesures qui ont voulu supprimer ces avantages font qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, ça prouve bien que c'était pas des privilèges, mais plutôt des compensations de désavantages.
Vous, Alice de Rochechouart, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous étiez
privilégié ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. Il n'y a pas eu un moment eureka, en fait, dans mon parcours. Moi, c'est vrai que j'ai grandi. Alors, comme mon nom l'indique, hein, j'étais plutôt en haut de la pyramide. Et donc, j'ai intériorisé cette domination pendant assez longtemps. Et c'est en rencontrant d'autres... En faisant de la philo, parce que la philo va sauver le monde, mais aussi en écoutant d'autres gens parler, me partager leurs expériences. Et donc, finalement, j'ai pu écouter la matérialité, quelles étaient les conditions matérielles, les conditions de vie d'autres personnes.
Vous vous êtes débarrassé, entre guillemets, de vos privilèges aujourd'hui ?
Alors, excellente question, mais la réponse est très importante, c'est non. On ne peut pas renoncer à ses privilèges. Ah. Les privilèges, c'est pas un vêtement dont qu'on pourrait laisser au placard. Moi, je ne pourrais jamais renoncer au fait d'être blanche, au fait d'être née dans une classe aristocratique et bourgeoise, d'avoir les codes, justement, parler des codes. Donc, je ne pourrais jamais renoncer à ça. Ça me paraît plus intéressant de se dire que les privilèges, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'on exerce ses privilèges. C'est une situation de pouvoir par rapport aux autres. Donc, on ne peut pas renoncer à ses privilèges. On peut en revanche...
ou pas.
Voilà, là, c'est la manière dont on va les exercer qui est importante et c'est un questionnement qui doit nous guider chaque jour. C'est une tâche politique permanente.
Merci, évidemment, Alice de Rochechouart, de nous avoir ouvert les yeux sur la persistance des privilèges. Rappelle votre podcast, Le Fil d'Actu, et votre livre, Privilèges, ce qu'il nous reste à abolir, aux éditions J.C. Lattès. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci beaucoup.
Ah, l'heure, et je m'en réjouis, de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une série, aujourd'hui, elle sent bon l'Angleterre du 19e et surtout l'aristocratie et la richesse des familles de cette époque. Certains auront reconnu la musique du générique de Downton Abbey. 6 saisons, 3 films, 15 Emmy Awards, plus de 120 millions de téléspectateurs dans le monde. La série anglaise est devenue culte. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle se déroule dans un château anglais, celui de la famille Crawley, des aristocrates installés dans le Yorkshire. On y suit les histoires d'amour de trois sœurs, les dynamiques de la famille et mon personnage préféré, la grande tante acariâtre mais attachante, interprétée par Maggie Smith. Mais la particularité de Downton Abbey, c'est qu'elle ne s'intéresse pas qu'aux gens privilégiés, justement. Elle se focalise aussi sur ceux d'en bas, ceux qui œuvrent dans l'ombre de la maison, les domestiques, les majordomes, les cuisinières, les femmes de chambre, dont la vie est tout aussi romanesque.
Et ça souligne le contraste entre les deux.
Exactement, car Downton Abbey est tout de même une plongée dans un monde de privilèges. Les Crawley vivent dans un luxe hors norme, repas servis à la minute près par des majordomes, gantés, bal costumés pour chaque événement, de l'argent pour les bébés, sans oublier la vaste propriété entretenue par une armée de domestiques, toute leur existence repose sur une hiérarchie invisible et très très stricte. En parallèle, les domestiques, eux, vivent forcément dans des petites chambres. Très souvent, on les voit à la cuisine, ils acceptent qu'on leur parle mal et de se taire, surtout quand il le faut. Mais la grande idée de Julian Fellowes, le créateur de la série, c'est d'avoir fait cohabiter ces deux mondes et de montrer comment les grandes secousses de l'histoire viennent justement bouleverser leur quotidien. La série s'ouvre en 1912 avec le naufrage du Titanic, se poursuit avec la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, l'émancipation des femmes, l'évolution des rapports de classe. En filigrane, Downton Abbey raconte aussi la fin d'une époque, celle de l'aristocratie anglaise toute puissante, confrontée à la modernité et au déclin de ses privilèges.
Merci beaucoup Manon de nous avoir rappelé cette belle série. Je crois qu'il y a un film
qui va sortir là, qui va le sortir. Troisième.
La chronique de Camille Laurenté, c'est juste après Wild Bell, It's Too Late sur France Inter. Elle est douce comme le miel, suave comme la crème de marron de son Ardèche natale. Aujourd'hui, Tata Camille Laurenté explique le sucre à nos bambins.
Hello les enfants, est-ce que ça va?
Oui. Oui.
Oh là là. Eh ben alors les marmots, on a pris un petit coup de pelle ou quoi? Vous avez la mine toute fatiguée. La patte patrouille s'est faite vermifuger ou il n'y a que Manon? Aujourd'hui les enfants, je vais tout vous expliquer sur le sucre. Ah. Savez-vous qui a inventé le sucre? Eh bien c'est la nature. Et elle en a mis dans tous les fruits. Eh oui, mais les fibres et les vitamines, berk berk berk. Non, non, non. Nous ce qu'on veut, c'est juste le sucre, le sucre, le sucre. Et ça tombe bien, car il y a 5 siècles, des hommes blancs ont eu l'idée de planter en masse une sorte de bambou imbouffable dont le sucre est extrait au prix de multiples souffrances. Eh oui, pour une raison mystérieuse, le sucre est bien meilleur si sa production ravage des forêts vierges et réduit des peuples en esclavage. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis ni botaniste ni de droite. Saviez-vous que la moitié des personnes déportées d'Afrique ont été esclavagisées pour la culture du sucre? Pensez-y la prochaine fois que vous vous roulerez par terre pour un bon bec. Enfin voyons le bon côté des choses. Sans traite négrière, pas de dragibus. Ironique quand on sait que les meilleurs, ce sont les Noirs. Je suis désolée, ils n'ont pas le même goût. Miam miam, les colons se régalent. De toute façon, rien n'arrête le sucre, même pas l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, l'abolition de l'esclavage n'arrête même pas l'esclavage. Ah, si vous voulez devenir de parfaits petits capitalistes, prenez exemple sur les géants du sucre, les enfants. Ils commercialisent mondialement un aliment qui n'a aucune valeur nutritive et qui fout en l'air ceux qui le produisent comme ceux qui le consomment. C'est un formidable moyen de promouvoir les inégalités, le racisme, l'obésité ou encore le diabète. Mais surtout, qu'est-ce que ça brasse? Oubliez l'argent de la coke, les enfants. L'argent de la canne, ça, c'est l'avenir. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les subventions coulent à flot. Si vous ne vendez pas votre sucre, l'État vous paye quand même. Si c'est pas beau, ça. Et voilà, les mioches, comment on invente la surproduction. Et quand vous serez grand, vous pourrez faire comme nous et en bouffer 40 kilos par an. Miam, miam, miam. Attention à ne pas devenir accro, quand même. Heureusement, Tata Cam Cam n'a pas ce problème. Moi, je suis un petit bec salé. Mon truc à moi, ce sont les tourteaublettes et les clopes. Si je m'écoutais, j'en fumerais dans mon lit du matin au soir. Mais je tiens à rassurer tout le monde. Le tabac aussi a esclavagisé beaucoup de gens. Et puis, super nouvelle, Tata Cam Cam a arrêté de fumer depuis 5 jours. Oh. Eh oui, déjà 5 jours sans chier. Allez les bambins, je vous retrouve la semaine prochaine. On parlera des jeux auxquels il ne faut pas jouer, même si tonton insiste. Bye.
Merci Camille Laurenté, merci à tous les amis. À la réalisation, c'était Maria Pasquet. Nous, on se retrouve lundi, une journée difficile en perspective pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il sera informé de la date et des conditions de sa future incarcération. L'occasion pour nous de comprendre ce que veut dire cette fameuse notion de république des juges. À lundi, 16h.
Zoom Zen.